Vers pile, ça dépend des classes. Je sais que nous, avec les enfants, souvent, on commence, mais on a comme un 10 minutes d'activité où ce qu'on attend que des fois les parents, les enfants arrivent. On me dit qu'il y a quelques semaines, là, je pense même que c'est mon neveu qui est avec mon garçon, qu'il y a de la difficulté à trouver du stationnement à 10h30. Ça ne devrait pas être le cas à 9h, je pense qu'il y a en masse encore de place dans le stationnement. Alors, je suis content d'être avec vous. Donc, je sais qu'on verra, les gens vont se rajouter, puis si on est un petit groupe, c'est encore mieux. Vous serez à l'aise de me poser des questions, j'espère. Je suis un des anciens ici, à l'Espoir. Tous les visages que je vois, je les connais, donc ça va, mais c'est probablement pour l'audio là, que je fais l'enregistrement, donc je mentionne ça. Je suis pasteur des familles, et puis tous les anciens, on a accepté, sous l'invitation de notre pasteur principal, Yannick, de donner un cours sur le travail. Donc, on ne parle pas du travail de pastorat du tout, on parle du travail dans la parole de Dieu. Et c'est inspiré d'un livre de Tim Keller, là, je l'ai en anglais ici, Every Good Endeavor. Donc, Dieu dans mon travail. Et puis, lorsque je regardais le passage biblique, le nouveau livre qu'on a commencé à lire cette semaine en Église, le programme de lecture sur 2 ans, on a commencé le livre de 1 Timothée. Donc, ce matin, on était rendu à 1 Timothée 4. Et ce que j'aime dans ce livre-là, c'est comment Paul part de lui et parle à son protégé, à son disciple Timothée, pour lui dire, « Mais voici le travail que je fais et voici le travail que Dieu t'appelle à faire. » Et une des choses qu'il rappelle dans 1 Timothée, c'est comment le travail que Dieu a confié à Paul, justement, ça ne vient pas de son initiative, ça vient de Dieu. Et la raison pourquoi il est capable de faire son travail, c'est parce que Dieu lui a donné cette force-là de le faire. Vous avez vu la semaine dernière avec mon coach et le pasteur Luc Panton, le chapitre 5, donc quand le travail devient improductif ou infructueux, qui perd son fruit. Et puis, vous êtes allé voir comment dans Genèse 3, à cause du péché, à cause de la chute, ça a détruit une structure dans la société que Dieu avait créée, la société parfaite, la société humaine. Et puis, particulièrement dans le domaine du travail, c'est là que les dégâts ont été probablement les plus grands. À l'origine, Dieu avait créé le travail comme un moyen qui permettrait aux êtres humains d'utiliser tous leurs dons, toutes les ressources à leur disposition pour faire prospérer la création. Et malheureusement, quand on regarde aujourd'hui, notre génération, la précédente, mais surtout celle qui suit, a raison de s'inquiéter comme quoi les ressources qu'on a, la création qu'on a, n'est pas en train de prospérer présentement, est en train de diminuer et on est en train de perdre nos ressources et ça va pas très, très bien. Donc, on n'a pas bien accompli et ça à cause du péché. Je ne sais pas si c'est possible, Jonathan, d'avoir une petite lumière ici parce que là, j'ai comme trop de reflets. Une petite lumière pour voir mes notes. Merci. Parce que là, je suis plus capable de me voir au travers mon propre reflet, là, ça doit être large un peu. Et ce qu'on voit dans le chapitre 5, ce qui a été vu avec M. Panton, c'est que l'improductivité qu'a causé le péché, c'est temporaire. Donc, c'est pas quelque chose qui est permanent, qui va rester pour toujours. Et nos aspirations les plus profondes à nous concernant le travail vont se réaliser un jour dans un avenir qui va être éternel avec Dieu. Donc, cette espérance-là, hein, l'Église Espoir, cet espoir-là qu'apporte le plan du salut, la rédemption de Dieu qui a été promise au monde qui l'a créé. Mais à ce moment-là, les chrétiens vont pouvoir se réjouir et être consolés un jour pour tout le travail qu'ils vont réellement pouvoir faire. Ah, merci. Ça fait vraiment une belle différence. Là, je vois juste du blanc, je ne vois plus de reflets et tout ça là, avec la lumière. Donc, c'est une consolation de penser que cet espoir-là, un jour, on va avoir un travail qui va être bien fait et qui va prospérer grâce cette perfection-là que Dieu va nous donner dans l'avenir, la vie à venir. Et un verset qui, je trouvais, résumait bien le chapitre 5, Romains 3, 23-24, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Donc, Dieu nous donne une libération, Dieu nous donne un salut, et puis ça fait qu'un jour, nous aurons pu à vivre les conséquences d'être loin de Dieu à cause du péché, mais un jour, nous allons être avec lui et notre travail va porter fruit. Donc, c'était le petit résumé du chapitre 5. On est rendu au chapitre 6 maintenant, quand le travail perd son sens. Comme je vous ai dit, là, moi j'ai une version plus rouge, je pense, que la vôtre. Je l'ai lu dans les deux langues. J'aime bien le lire dans la langue originale quand c'est possible, quand je comprends, par exemple, l'anglais. Parce que des fois, il y a des subtilités qui nous permettent de comprendre un peu mieux des mots. Donc, « perd son sens » dans le titre de chapitre-là, en anglais, c'est « pointless ». Donc, qui n'a pas d'objectif, de point, de but, et puis qui est un peu comme de la fumée. Et un verset que je vais répéter à deux reprises, parce que c'est vraiment, ça résume bien ce titre-là, c'est dans Ecclésiaste 2, 17. Et ça dit, « Alors j'ai détesté la vie. Oui, ce que se fait sous le soleil m'a déplu, car tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. » Donc, le fait de perdre son sens, d'être pointless, ça vient d'expression « partir en fumée » qu'on voit dans Ecclésiaste 2, 17. Je vais juste répéter, il y a les feuilles à l'arrière. Vous avez bien eu votre feuille pour le cours? C'est bon, hein? Je vous vois, je suis content de vous voir. Donc, on y va avec le livre biblique des Ecclésiastes. C'est probablement celui qu'on va utiliser le plus dans ce résumé de chapitre-là aujourd'hui. Et Ecclésiastes vient d'un mot hébreu qui est « Kohelet ». Donc, excusez mon accent hébraïque, je n'ai pas beaucoup pratiqué, ce n'est pas une langue que je connais, mais en bon français, le mot « Kohelet » vient ou signifie quelqu'un qui est rassembleur, quelqu'un qui est un lecteur, qui est un professeur, un maître, un enseignant, un orateur, un prédicateur ou même un philosophe. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont aimé leur cours de philosophie s'ils ont fait le cégep? Levez la main. Oh, j'en ai 2, 3, 4, 5. OK, c'est pas si pire. Moi, j'aime bien la philosophie, mais j'ai pas aimé mes cours. Donc, c'est possible d'aimer quelque chose, mais de l'étudier, c'est une autre histoire. J'ai eu le privilège avec mon épouse d'aller voir un film cette semaine, et c'était très philosophique, et c'était très lent, très long. Et tout le long, je regardais mon épouse, je savais, elle avait juste le goût de partir, elle allait lire dans la voiture et dire, je perds mon temps en train d'écouter un film qui parle d'idées dans les nuages comme ça. Donc, il y en a pour qui la perception de la philosophie, c'est on pèle des nuages et puis on parle pour rien dire. L'Ecclésiaste peut avoir des fois l'impression d'être un philosophe. Et vous savez, le mot « Ecclésiaste » ou le mot « Kohelet » apparaît juste 7 fois dans la Bible et ça apparaît seulement dans le livre des Ecclésiastes. C'est un livre qui est assez unique dans la Bible. Il ressemble un peu à Job sur certains éléments, mais pas tous les éléments. Mais Job est vraiment le livre le plus proche de ce que le livre des Ecclésiastes est dans la parole. Son style est assez unique. On appelle ça une autobiographie fictionnelle. Donc, on parle de nous, mais d'une manière un peu hypothétique. Hein? Vous voyez déjà, là, on commence à rentrer dans le flou, là. Alors, ça, c'est un peu comme suivre un cours de philosophie, comme j'ai dit, qui est donné par un professeur. Et le professeur, lui, tout ce qu'il veut faire, c'est qu'il fait s'y prête pour vous poser des questions difficiles. Et puis, ensuite, il vous amène des exemples vraiment bizarres. Et ce qu'il veut que ça fasse, c'est que les discussions qu'on a autour de ces hypothèses puis ces bizarreries nous amènent par nous-mêmes à trouver la vérité. Ouf, c'est mêlant un peu, hein? Donc, c'est pas le genre de choses que tout le monde aime, mais Dieu est un Dieu complet. Dieu a permis que certains soient des enseignants, des philosophes, et toute la question de gestion des idées, tout ça, C'est un style aussi qui est employé dans la parole de Dieu. Et il faut juste comprendre pourquoi et comment le livre des Ecclésiastes est écrit et pourquoi, dans le fond, on l'utilise comme une ressource ce matin pour voir notre chapitre 6. Des questions, exemple. Ta vie a-t-elle réellement du sens? Dans quel but fais-tu tout cela? Pourquoi le monde va si mal? Pourquoi? Comment vas-tu t'en sortir? Et puis, cette semaine, on a, notre famille, on a eu une grosse épreuve. On a un de nos enfants qui a été hospitalisé pendant 8 jours. Donc, c'était quand même assez difficile, assez long. Et puis, on l'a rentré à l'hôpital mercredi, il y a une semaine. Et par la grâce de Dieu, on a réussi à sortir de l'hôpital ce jeudi, cette semaine. Et je dois vous avouer que durant cette semaine-là, il y a des questions comme, est-ce que ça a vraiment du sens? Pourquoi mon enfant souffre? Pourquoi mon enfant est malade? C'est le genre de question qui, je le dis avec émotion un peu, là, ça paraît peut-être pas, mais j'ai des frissons. C'est pas facile à répondre à ces questions-là. Et dans le fond, on va le voir tantôt, comment on peut regarder la conclusion du philosophe de l'Ecclésiaste et comment on peut ramener ça à Dieu. Mais lorsqu'on exclut Dieu de nos questionnements, tout est vanité, tout est poursuite du vent. Donc, on va y aller maintenant à votre page 2, si vous voulez suivre un peu avec mes notes. J'essaie là, de montrer un peu, de vous aider à suivre. Là. Donc, je ne sais pas si vos pages sont numérotées, mais c'est facile à suivre, juste 5 pages. Salomon était plein de sagesse. Donc, souvent, on va associer absolument directement que, parce qu'il écrit plein de beaux proverbes, mais c'est sûr que c'est Salomon qui écrit les Ecclésiastes. Et puis, dans le fond, on peut soit dire oui, soit dire non, mais le nom de Salomon n'a quand même jamais été cité dans le livre des Ecclésiastes. Et justement, lorsqu'il écrit dans Ecclésiastes 1:16, « J'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem », bien, est-ce qu'il y en a plusieurs qui ont dominé sur Jérusalem avant Salomon? Donc, pour certains, donc Tim Keller, notre auteur du livre, bien, il y en a eu juste un, c'était David. Donc, comment il peut parler de plusieurs s'il y en a eu, il y a juste son père qui a vraiment dominé sur Jérusalem, c'est là qu'il siégeait. Donc, ça, c'est un questionnement qu'on a. Mais il y a d'autres auteurs comme MacArthur qui lui, non, c'est absolument Salomon qui a écrit les Ecclésiastes. Et donc, autant un auteur pour dire oui, c'est absolument ça, d'autres non. J'aime bien, dans le fond, vous avez peut-être reçu ou vous avez acquis la nouvelle Bible réformée qui est commentée par R.C. Sproul. Et lui est un peu plus dosé, il dit peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important lorsqu'on regarde un livre. C'est comme le livre de Hébreu dans le Nouveau Testament. Hein? C'est qui l'a écrit, on ne le sait pas. Mais c'est qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de ce livre-là. Donc, refocussons. Je vais vous lire, j'ai mis quelques extraits. La conclusion de Ecclésiaste, comme je vous en parlais dans mes personnels, c'est quelque chose qui console, qui rappelle, qui fait du bien. Lorsqu'on lit dans le dernier chapitre, Ecclésiaste 12, versets 8 à 14. Donc, je vous ai mis à l'écran, je pense, juste le verset 8. Et 14, compte de circonstances, l'Ecclésiaste, tout n'est que fumée. Comme on a vu tantôt au début du chapitre, au début du livre, pointless, sans but, fumée, il répète à la fin. L'Ecclésiaste n'a pas seulement été un sage, donc ça c'est les versets entre 8 et 14, et il a aussi enseigné la connaissance au peuple, et il a examiné, recherché, mis en ordre un grand nombre de proverbes. Il s'est efforcé de trouver des paroles agréables, des écrits pleins de droiture, des paroles vraies. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul berger. Attention, mon fils, à ce qui pourrait être ajouté. On n'en finirait pas. Hein, c'est infini si on brasse juste des idées. Et si on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études fatiguent le corps. Donc, c'est important de mettre une énergie au bon endroit. Donc, écoutons les conclusions de tout ce discours. C'est exactement littéralement ce que dit dans l'Ecclésiaste. Il dit « Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché et ce qui est bon, que ce soit bon ou mauvais. » Donc, crains Dieu et respecte ses commandements. Fais-lui confiance. Il sait ce qu'il fait. Il est au contrôle de tout et respecte-le. Donc, dans ce monde-ci, il y a, dans le fond, lorsqu'on regarde, c'est une citation de la page 123, il n'y a pas de base suffisante, nécessaire pour vivre une existence qui a vraiment du sens. On peut se donner des objectifs, mais c'est toujours jusqu'à un certain point éphémère, court terme. Et particulièrement par rapport à notre travail et notre réussite, que ce soit aussi même au niveau des plaisirs, au niveau du savoir, c'est quand même fragile. Et puis, c'est pas quelque chose sur lequel on peut construire. Souvent, le réflexe qu'on a lorsqu'on dit bonjour à quelqu'un, puis on va apprendre à connaître quelqu'un, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Ah, quelle question plate! Hein? En avant, je vois des étudiants, « Bien, j'étudie. En quoi? Pourquoi? Ça va-tu bien? Tu fais ça? Comment tu es arrivé là? » Puis, malheureusement, notre société nous définit beaucoup, beaucoup, puis on va le voir un peu plus loin, par ce qu'on fait, et pas nécessairement par qui on est. Fait que j'aime bien lorsque Daniel Bélanger, un chanteur québécois, dit dans une de ses chansons, il dit « Je me demande ce que tu fais », puis lui, sa réponse, « Je fais de mon mieux ». Donc, c'est pas tant important, et intéressons-nous plus à la personne qu'à ce qu'il peut pouvoir accomplir et comment la société va glorifier certains travaux. On va le voir, comme je vous dis, un peu plus loin. Tim Keller écrit son livre, pas tout seul, il l'a écrit, là, peut-être cet écran tout petit, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais avec une collaboratrice, Catherine Leary Alsdorf. Et puis, cette collaboratrice-là nous parle un peu de son cheminement. Donc, à la page 124, vous le voyez vers le milieu de la page 2, là, elle dit qu'après avoir essayé toutes sortes de choses, donc d'être épanouie par ses études, par le plaisir, partir à l'aventure, le travail, sa carrière, la réussite, la prospérité, elle a fait de l'argent. Elle nous dit qu'elle a commencé à étudier l'Évangile de Christ. Après avoir toutes fait ces choses-là auxquelles le monde dit, « Faut que tu fasses ça. Allez, vas-y, va explorer. » Mais non, elle est revenue et est allée faire une étude de l'Évangile de Christ, car les philosophies de ce monde ne menaient nulle part. Le vide de son existence la poussait à vouloir comprendre par elle-même ce caractère unique et transcendant de la personne de Dieu. Donc, tout ce que le monde a à nous offrir ne va pas remplir ce vide intérieur qu'on a. Et ce que j'aime dire aux enfants, puisqu'on dit souvent, on a tous un vide dans notre cœur en forme de Jésus, en forme de Dieu. Et puis, on essaie de remplir toutes sortes de choses, mais c'est vraiment seulement Jésus qui peut remplir ce vide-là dans notre cœur. Et ça a fait qu'aujourd'hui, cette femme-là a trouvé un sens à sa vie, est devenue chrétienne, puis même elle a collaboré un livre qui parle de comment trouver un sens au travail. Bon, je ne l'ai pas fait encore, c'est un peu volontaire, je vois que le temps avance bien. Je vais prier. Donc, tantôt, on était peut-être 7-8 là, au début dans le cours, fait que je dis, on va attendre un peu. Je vous connais, hein? on arrive, on a plein de choses, et puis on va mettre ça entre les mains de Dieu. C'était mon introduction, dans le fait. Merci, Éternel, parce que tu nous permets de nous rassembler ici ce matin pour pouvoir t'entendre, pour pouvoir utiliser un outil comme ce livre, pour voir ce que tu as à nous dire au travers ta parole, au travers l'interprétation de ta parole par ces gens, Seigneur, qui ont mis du temps pour réfléchir, pour écrire, pour essayer de nous voir, nous faire voir quelle est ta volonté. Et Seigneur, je te prie que ce matin, on puisse s'accrocher à toi. Et Seigneur, ce matin, qu'on puisse trouver un espoir, un sens dans un travail qui va porter un fruit éternel et pas dans des choses qu'on fait qui sont éphémères. Merci, mon Dieu, parce que tu as permis que notre enfant sorte de l'hôpital, à moi et mon épouse, et qu'aujourd'hui, Seigneur, on est content d'être ensemble et que c'est toi qui es au contrôle de chaque détail, même la santé. En ton nom, Jésus, que je te prie. Amen. Premier sous-titre de notre livre, il y a 4 sous-titres. Premièrement, la vanité du travail. Hein? On n'est pas surpris lorsqu'on lit l'Ecclésiaste, tout est vanité des vanités, tout est poursuite du vent. Y a-t-il un écho avec le... OK, merci. C'est bon, c'est un test, mais vous avez, ça n'a rien changé, c'est votre son à vous autres. C'est bon? Je me sens entendu en écho, là. J'ai dit, oups, il y a quelque chose qui se passe, là. Alors, la vanité des vanités, vous le voyez à l'écran, pour l'Ecclésiaste, rien de ces trois choses-là qu'il a essayé lui a permis de trouver un sens. La connaissance, la sagesse, le plaisir et le dur labeur, le travail fort. J'entends, là, il faut travailler. J'ai mon père qui est là ici avec moi. Mon père, c'est un modèle de travail. Il hein? faut travailler fort, puis toujours être un modèle. Mais est-ce que c'est ça vraiment le sens de la vie? Hein, je vais vous dire tantôt, je vais parler un peu de mon témoignage, j'ai le temps, le cheminement. J'étais avec mon père, j'ai eu le privilège avec lui. Je l'ai vu. C'est un travailleur acharné, travailleur dur. Dans le fond, Dieu nous dit, c'est pas juste le travail. Hein? Il y a un autre Italien qui se met à rire, là, parce que lavoro è forte, travailler fort, hein? Le labeur. Mais le vrai sens de la vie, puis mon père peut en témoigner, c'est vraiment d'être attaché à Dieu puis travailler pour Dieu. Alors, l'Ecclésiaste, je le répète, il a dit en Ecclésiaste 2:17, « Tout est fumé, tout est poursuite du vent. » Donc, il parle de son travail aussi. Et puis, à page 125, on voit dans le livre qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que le sentiment d'avoir accompli quelque chose qui va perdurer dans le temps. Mais tout cela est vain, puisqu'en fin de compte, rien de tout ce qu'on a accompli ne durera. Donc, c'est l'auteur qui nous rappelle cela. C'est un petit résumé un peu de ce que l'Ecclésiaste peut dire. Et pour moi, ça fait référence un peu à dans Genèse. Donc, vous l'avez vu, on a parlé de Genèse la semaine dernière. Pas tout de suite, on va le voir plus tard la Genèse, excusez-moi. Donc, dans Ecclésiaste, l'Ecclésiaste dit la même chose. J'étais, je vais vous le dire, là, dans le fond, dans Ecclésiaste 2, 18 à 20, c'est sur deux pages sur mes feuilles. J'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil. Donc, j'ai détesté tout ce travail-là que j'ai essayé dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Donc, même le travail que j'ai accompli, c'est même pas moi qui vais en profiter, c'est la personne qui suit. Et qui sait s'il sera sage ou fou? Aucun contrôle là-dessus. Pourtant, il serait maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Cela aussi, c'est de la fumée, encore une fois. J'en suis venu à désespérer à cause de toute la peine que je me suis donnée sous le soleil. Donc, lorsqu'on fait juste mettre l'énergie dans le travail, ça devient un désespoir. À la fin de cette section-là, où on parle que si le travail est une vanité, je fais un petit résumé, c'est-à-dire avec le temps, tout ce qu'on a accompli va passer. Et ce n'est pas dans le livre, mais j'ai trouvé nécessaire de rajouter quand même deux passages bibliques que Dieu parle. Et puis dans Matthieu 13:23, ça dit que Dieu, c'est lui qui va faire fructifier les fruits de ce qu'on fait. Et souvent, on dit, on ne peut rien amener dans l'éternité. Puis là, souvent, je fais un petit bémol, attention, une chose que j'aimerais vraiment, que peut-être que je peux amener dans l'éternité, c'est les gens qui vont avoir accepté le Seigneur par la semence, par l'Évangile que je vais avoir semé, et que Dieu va avoir permis qu'ils soient récoltés et qu'ils portent un fruit, et que la personne devienne chrétienne. Mais même encore là, ce n'est même pas sous mon contrôle. Mais c'est peut-être la seule chose qu'on peut amener avec nous. Et notre prière pour tous ceux qui nous sommes parents, c'est que nos enfants puissent accepter et puis voir que cette semence-là vient de Dieu, la laisser pousser et devienne enfant de Dieu. J'aimerais tellement que mes enfants soient avec moi, avec Dieu, pour l'éternité, mais ce n'est même pas dans mon contrôle. Mais c'est une chose quand même que j'ai une responsabilité, et si je sème, je peux prier que Dieu va faire pousser cette semence-là. Donc ça vient de Matthieu 13. Puis aussi, dans Romains 14, ça parle que un jour, tout genou va fléchir devant Jésus. Devant celui qui est ressuscité. Et il y a toutes sortes de personnages dans l'histoire qui sont reconnus. On se souvient de certains personnages, Augustin, Newton, la pomme qui tombe sur la tête, et puis que la gravité, il a compris que c'est quelque chose de grave, la gravité. Mes petits jeux de mots à moi, là. Et puis, on se souvient de certains morceaux très petits, souvent, de grands personnages de l'histoire. Je viens de lire un livre sur Martin Luther, c'est incroyable ce qu'il a fait, mais même encore là, je n'ai pas passé chacune de mes secondes de ma vie à le suivre, être à côté de lui, puis le connaître. Comme je ne peux même pas faire ça avec mon épouse, je ne peux même pas faire ça avec mes enfants. Donc, jusqu'à un certain point, connaître quelqu'un, ça va passer. Qui se souvient ce que son arrière-grand-père ou grand-mère a fait? Pourtant, on a tous des arrière-grands-parents. Même certains des enfants, la semaine dernière, on regardait la généalogie de Jésus, se souvenaient même pas du nom de leurs grands-parents. OK, il y avait 4 à 6 ans, c'est un peu normal, mais quand même, c'est intéressant. Là. C'est quoi le nom de ta grand-mère? Mamie. OK, c'est bon, c'est intéressant, j'aime ça. on voit que le temps passe vite et tout ça. Je parle à mes enfants de mes grands-parents, mais ils ne les ont pas connus. Et puis, c'est quelque chose qui ne reste pas. Puis même Jésus, hein, si on nous montrait 3 portraits de personnes qui viennent du Moyen-Orient, ce serait lequel qui serait Jésus? On ne sait pas c'est qui. Son visage, de quoi il avait l'air. Mais un jour quand même, Dieu va nous permettre, si on est enfant de Dieu, même si on est sa création, qu'on va reconnaître que c'est lui le Dieu Tout-Puissant et tout genou va fléchir devant lui. Donc, plein de choses vont passer, mais Dieu, lui, ne passe pas. Maintenant, deuxième point, l'aliénation du travail. Donc, que veut dire le mot « aliéné » ? Je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai de la misère avec ma langue de dire « allié ». Donc, je vais utiliser peut-être d'autres mots pour ça, mais ça veut dire quelqu'un qui est dément, quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui est niais, qui est perdu, qui est con. Et qui a perdu, dans le fond, son libre arbitre, qui est dépossédé de ce qui constitue l'essentiel de sa vie, sa raison d'être, sa raison de vivre. Donc, j'étais allé chercher ça un peu dans le dictionnaire Larousse. Et le travail sous le soleil, vous le voyez à l'écran, est vain parce qu'il ne dure pas. Et ainsi, il nous prive de tout espoir pour l'avenir. Donc, si on fait quelque chose qui mène à rien, c'est un peu normal, à un moment donné, de dire, « Bien, je deviens un peu fou. » à cause de tout ça. Et si le travail ne fait pas de sens. On voit c'est là que je vous parle dans Genèse 2, Dieu, lui, son travail a produit du vrai fruit. Et à la fin de son travail, il a pu se reposer le 7e jour, il a mis un terme à la création, et puis il était satisfait, et ce qu'il a fait était très bon. Et ce repos-là, du travail, donc on voit qu'au niveau de au lieu de dire « j'arrête plus », puis il n'y a pas de sens, mais c'est possible de regarder au modèle à Dieu qui, lui, se reposait après le 7e jour. Mais aussi Jésus travaillait fort, hein, il avait des grosses journées. Toutes les foules venaient à lui. Vous savez, on n'est peut-être pas une grande foule ce matin, mais quand même une église de 300-400 personnes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais après le dimanche matin, là, on appelle ça un classique pour les pasteurs, on va faire une sieste. Donc, on est fatigué. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir, nous parler. Et puis, Jésus, il y avait des fois des milliers de personnes, puis il guérissait tout le monde. Et lorsque c'est le temps de se reposer, il se reposait. Et on voit dans Marc 4 qu'il était sur la mer, il voyageait avec ses disciples. Il était tellement fatigué qu'il dormait sur le barrière, sur le coussin, et puis de la barque. Et il y avait une tempête, puis la barque commençait à se remplir. Et lui... Il se dormait, puis c'est comme s'il n'était pas à se réveiller, il se reposait. Et puis les disciples l'ont reposé, puis ils disent, « Maître, ça ne fait rien qu'on est en train de mourir. » Et on voit que ça, j'aurais eu la même réaction que les disciples en passant. C'est hey, nous, là, le barque est en train de se remplir, au moins à vider l'eau, puis en plus, on le sait que tu es puissant. Mais lorsqu'on fait le bon travail de Dieu au bon moment, pour les bonnes raisons, mais il y a un temps pour travailler puis un temps pour se reposer. Ecclésiaste 5:17 dit, « Si tu vois dans une province un pauvre opprimé, le droit et la justice violés, ne t'en étonne pas, car un homme de rang élevé est placé sous la surveillance d'un autre homme de rang élevé, et au-dessus d'eux, il y a de rang plus élevé encore. » Donc, on le voit, je l'ai mis à l'écran, « La pauvreté, l'injustice et des systèmes dysfonctionnels sont autant de raisons pour enlever tout sens et raison d'être à notre travail. » Hein, comment on appelle ça, la hiérarchie, un patron de patron de patron, de voir que comment ça se fait qu'il y a tellement de fruits au péché. J'ai une amie de ma femme qui m'appelle il y a quelques semaines, puis elle dit, « Comment ça se fait qu'un homme est capable d'étrangler sa femme puis qu'elle va mourir? » La sœur d'une de ses amies s'est faite étrangler. Il y a eu des funérailles la semaine dernière à Saint-Charles-sur-Richelieu. Et puis, elle est en pleurs, puis c'est un non-sens. Puis, Luigi dit, « Comment je vais faire pour enseigner à mon fils à ne pas faire ça? » Hey, je n'ai pas vraiment de réponse, honnêtement. J'ai écouté pleurer. J'ai dit, je comprends que c'est, ça n'a aucun sens. C'est difficile. Puis, je vais prier. Elle sait qu'on est chrétien, tout ça. Puis là, ma femme l'a rappelé après, puis elle l'a réconforté un peu plus. Elle a compris un peu plus ses émotions aussi. Mais honnêtement, quand il arrive des situations comme ça, ça m'a fait penser à la Polytechnique, la tuerie des 14 femmes ingénieures qu'on a eues ici au Québec il y a une trentaine d'années. Et comment la mère de ce meurtrier-là, Monique Lépine, a été en désarroi. Puis comment ça que mon fils a fait ça? Je l'aimais, je l'aime. Mais il a fait une chose horrible, puis elle a écrit un super livre sur ce sujet-là, un livre que je vais donner à la dame qui m'a posé ces questions-là. Quand on regarde que les pauvres sont opprimés, quand on regarde qu'il n'y a pas de justice sur terre, l'Ecclésiaste dit qu'on ne doit pas être étonné de cela. Donc, il y a toutes sortes de frustrations qui sont liées à la bureaucratie, des retards interminables, des excuses. Hein, j'attends un document du gouvernement, puis je dois être patient. On a reçu un message téléphonique de la mairesse hier. Poste Canada va envoyer des coupons, fait qu'aller voter. Tu sais. Fait que il y a toutes sortes de choses qui se passent, puis les facteurs, les postiers ont raison jusqu'à un certain point de demander là, d'avoir des meilleures conditions pour leur travail. Mais c'est compliqué, toutes ces structures-là, et c'est aliénant, ou ça peut m'amener à dire « ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens ». On voit un philosophe, pour ceux qui ont étudié la philosophie, vous avez certainement entendu parler de Karl Marx, donc qui était un Allemand qui a parlé dans les années 1850 de toutes sortes de principes de sociologie, de socialisme, de communisme et tout ça. Et dans le fond, lui, ce n'était pas un religieux. Hein? Sa phrase la plus connue, c'est qu'il a dit « la religion est l'opium du peuple ». Donc, la religion, c'est juste une drogue que les gens ont besoin. Il y avait tort à ce niveau-là. Mais par rapport au travail, il a quand même constaté que lorsqu'il voyait des milliers d'ouvriers entassés dans des usines, des gens qui travaillaient 14 heures par jour à effectuer des travaux physiquement qui faisaient mal, qui étaient harassants, qui étaient mentalement abrutissants, au mieux, on le voit ici, le travail était une triste forme d'abnégation dont le seul but était la survie physique. Je renonce à moi-même pour pouvoir avoir un repas sur la table. C'est le minimum, hein? Le seul but que je travaille, je vais me tuer au travail. Allez, on a vu toutes sortes de mineurs dans les mines avec des mauvaises conditions et qui meurent de tout ça parce qu'ils ont aspiré des toutes sortes de choses pour les poumons, tout ça. Et souvent, la seule raison, c'est pour être capable d'amener un repas sur la table de sa famille, de ses enfants et tout ça. C'est vrai que c'est aliénant. Donc, à ce sujet-là, ce philosophe-là avait raison. J'étais un travailleur de bureau, je vais vous en parler tantôt, mais la bureaucratie et comment le travail de bureau était simplifié, même aussi là, jusqu'à un certain point, ça, des fois, ça peut devenir un peu fou. Il y en a-tu qui ont déjà fait de l'entrée de données ici, dans la salle? Hein? Je sais pas, vous savez c'est quoi? On prend une feuille, oh oui, une feuille qui est là, il y a des chiffres qui est là, puis l'ordinateur qui est là ici, tu as l'écran, puis tout next, tout next, c'est ça toute la journée. Fait que, aïe, 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 c'est quelque chose. Mais là, ça va vite, c'est juste toi qui fais ça, puis tu es le meilleur au monde pour faire ça, puis l'autre fait l'autre étape après que c'est rentré la donnée, mais là, après ça, il met de la couleur. Après ça, l'autre, il va mettre les chiffres en tableau. Après ça, l'autre, il va l'envoyer au patron, puis c'est comme tout divisé, puis c'est difficile à dire, mais c'est quoi le sens du travail que je fais ici? Alors, c'est important de juste se reculer, se rappeler pourquoi et pour qui on travaille et comment on travaille surtout. Ça va faire toute une différence. J'aime dire aux jeunes dans la jeunesse que vous êtes tous des leaders. Hein? J'ai quelques leaders en formation qui sont là. Même lorsqu'on passe le balai, même lorsqu'on vide les poubelles, même lorsqu'on écoute d'autres jeunes pleurer et tout ça, vous êtes des leaders parce que dans la manière dont vous allez faire votre travail, ça va parler beaucoup plus fort que ce que vous faites. Non, je vais me contredire. Là. Dans la manière dont vous allez faire votre travail, va parler beaucoup plus fort de ce que vous allez dire. Donc, c'est important de voir nos motivations. Puis lorsque je vois, entre autres, celui qui passe la mop ici toutes les semaines, M. Antonio, c'est pas facile de faire ça, là. Puis là, les jeunes courent le vendredi soir, puis ils déplacent tous les bancs ici. Ils sont pas supposés de faire ça. Puis là, lui, il faut tout qu'ils replacent les bancs, puis qu'ils passent tout ça ici. J'aime voir que son attitude, il ne le fait pas pour être vu. Il n'aimerait même pas ça que j'en parle ici devant lui. J'espère qu'il n'est pas là, là, mais en tout cas, c'est enregistré. Mais c'est un homme qui fait le travail avec fierté. Puis en plus, il a le même nom que mon père, il s'appelle Antonio. Fait que c'est bien. OK, hey, je parle beaucoup. Hein. Il y a un nom, ben, c'est ça le but d'un cours, en fait. Il y a un homme que j'ai étudié dans mes études en administration, Peter Drucker. Je suis pas mal certain que Joël connaît, t'as entendu par lui ou non, un peu. C'est un gourou, un père, un pape du management moderne, de la gestion moderne. Peter Drucker a écrit plein de documents et de super bonnes idées sur la gestion. Et puis, une chose qui est écrite par rapport au travail, c'est souvent, si on ne voit pas pourquoi on fait le travail, mais c'est normal qu'on va déconnecter aussi de notre travail. Et dans la même page, page 129 de notre livre, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit ou c'est l'auteur, mais il dit souvent, malheureusement, le travail peut nous isoler les uns des autres. On est fait pour vivre en famille, pour vivre en communauté, en société. Et lorsque notre travail est en télétravail ou juste focusé sur une chose, il peut y avoir des dangers à un moment donné il me manque quelque chose. C'est normal qu'il nous manque quelque chose. On a besoin d'interrelations les uns avec les autres. Ecclésias 4:8, ça dit, vous le voyez à l'écran, « Un homme peut être seul, sans aucun proche, sans fils ni frère, et pourtant son travail n'a pas de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Hein? » Pour qui il travaille? Pour lui-même? Pour qui donc est-ce qu'il travaille? Et « Je me prive de bonheur », se demandera-t-il. C'est aussi de la fumée et une mauvaise occupation. Donc, pourquoi on accumulerait des trésors, si en bout de ligne, on n'a même pas le temps des utiliser, des dépenser. On connaît quelques milliardaires comme ça. Hein? Bon, on arrive à nos deux dernières pages. Ça avance bien. On peut travailler dur. On peut se convaincre que ce qu'on fait pour notre famille, pour nos amis, ça peut être bon. Mais souvent, c'est à cause souvent de nos propres ambitions qu'on va travailler. Et on va même tellement travailler que ça va délaisser nos familles. Fait qu'un reproche qui est fait au pasteur, c'est souvent que, je vais le dire comme ça, là, l'Église, c'est sa deuxième femme. Il est tellement impliqué dans l'Église que l'Église le connaît mieux que sa propre femme, que sa propre famille, que ses propres enfants. Et ça, c'est un problème. Donc, je le dis pour moi, c'est un danger, il faut faire attention. Et le mot « business », il y a le mot « busy » dedans, qui veut dire « être occupé ». Faisant attention de ne pas être trop occupé. Parlant d'hommes d'affaires, de business, il y a un autre livre que j'ai lu il y a pas si longtemps, il y a quelques semaines. Quand j'étais au camp avec les jeunes, là, j'étais avec Vincent et avec Toby, puis je leur montrais, regarde ce qui est écrit dans ce livre-là, tout ça. C'est un livre qui s'appelle « Quand l'Évangile inspire mon travail ». Donc, c'est écrit par un homme d'affaires qui s'appelle Sébastien Trager et aussi un auteur chrétien, un pasteur qui s'appelle Greg Gilbert. C'est intéressant que c'est écrit par les deux facettes. Le monde du travail, le monde de l'Église, et comment l'Évangile peut inspirer mon travail. Puis c'est un homme que je réfère beaucoup, Osé Jeudi, en conseil biblique, qui m'a référé ce livre-là pour m'aider à essayer de défaire un peu un nœud que j'ai des fois par rapport à la nonchalance face aux tâches. Et quand on était au camp des Blues, justement, le prédicateur il a dit, « Y en a-tu qui sont nonchalants, des fois paresseux avec leurs tâches? Levez la main. » Hein? Là, j'en ai vu une personne qui lève la main ici. Moi, j'ai levé la main très haut parce que je venais de lire ça. Et puis, je le sais que des fois, je suis comme, « Ah, je vais aller faire dernière minute » ou « Je vais reporter, des choses, ça ne me tente pas. » Les jeunes, quand même, ils étaient assez honnêtes, ils levaient la main, tout ça. Là. Fait que je ne vous ferai pas pour de vrai l'exercice. Merci pour ton honnêteté. C'est intéressant de voir comment l'Évangile et le travail peuvent être liés. Et juste une petite citation de ce livre-là. Ça dit, notre seul et unique, là on peut le voir, là, c'est ça? Oui, dans le fond, ça répond à une question. Comment équilibrer notre travail, l'Église et la famille? Donc, c'est notre seul et unique responsabilité principale, c'est être disciple de Jésus. Là, il continue, vous ne le voyez pas ici, là, mais je vais le voir encore. Il nous aide, il nous accompagne en toutes choses, dans tout le domaine. Vous êtes au chômage en ce moment, même là, vous devez comprendre que votre mission, à ce moment précis, est d'être au chômage. Donc, Dieu sait que tu es dans cette situation-là. J'en parlais justement à un de mes amis qui est en recherche de travail. Et Dieu veut que vous mettiez cette période au profit pour suivre Jésus et lui rendre gloire. Et finalement, il dit, la fidélité, vous voyez ici, là, à l'écran, doit premièrement être recherchée, puis viendra la productivité. La famille, l'Église et le travail sont nos missions secondaires. Notre première mission, c'est d'être disciple de Jésus. Et ça, c'est intéressant. Et j'ai pensé à plusieurs retraités qu'on a dans l'Église ici, un excellent livre. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'écrit cet auteur-là, John MacArthur. J'ai lu un autre livre de lui, puis je ne le recommanderais pas, mais celui-ci est excellent. « Comment bien terminer la course ». Un livre sur la retraite. C'est quoi la vraie retraite? Donc, s'il y en a qui sont intéressés, c'est vraiment pas long à lire. C'est trois principes, c'est super clair. Et est-ce que c'est vrai que le travail arrête lorsqu'on arrive à la retraite? Je connais des gars comme mon beau-père, comme mon père, qui... Non, il faut s'occuper encore, même si j'ai 70 ans, puis tout ça. Puis un pasteur, entre autres, 75 ans, puis prêche encore toutes les semaines. C'est beau à voir. On a toutes sortes de modèles qui sont là, de personnes qui persévèrent dans le travail. Des gens que ça fait longtemps qu'ils entrent au travail, puis là, je vois quelqu'un ici qui est devant moi, et qui vient des fois 8 fois par semaine à l'église pour aider à travailler, faire la construction, puis tout ça, faire le comité du bâtiment. OK, je l'ai dit. vous reconnaissez la personne. Proverbe 23, verset 4, dit « Ne te fatigue pas à acquérir des richesses, n'y applique pas toute ton intelligence. » Donc, ce n'est pas la seule chose la plus importante dans une vie. Et la section suivante du livre, la troisième section, vous allez voir, ça va aller plus vite un peu, là. Pourquoi tant d'étudiants à l'université? Pourquoi ceux qui sont les plus hauts dans la société s'engagent presque tout le temps, soit dans la finance, ou dans les services conseils, du consultation et tout ça. Et puis, donc, c'est une des questions qui s'est posée, l'auteur, et la réponse, vous allez voir au niveau du danger du choix, c'est-à-dire les gens les plus intelligents devraient s'employer à lutter contre la pauvreté et à éradiquer les maladies, à servir les autres au lieu de servir lui-même. Donc, c'est très beau comme phrase, mais c'est-tu vraiment la réalité qu'on voit autour de nous? Et je vais vous parler, moi, de mon témoignage. C'est écrit, là, lorsque mes notes étaient révisées, quelqu'un a dit, ben là, OK, telle faute là, mais c'est écrit, témoignage personnel, puis il n'y a rien d'écrit. Mais je dis, viens à mon cours. Ça, c'est vraiment pour vous que je vous dis ça. Dieu m'a permis, dès l'âge de, si je me souviens bien, de 9-10 ans, à commencer à passer les journaux à Rivière-de-Prairie, à Montréal. Et à ce moment-là, bien, ça m'a permis de m'acheter un vélo. Donc, ça, c'était mon premier travail que je faisais les matins, vers 6 heures du matin, la fin de semaine. Si je me souviens bien, mon père m'aidait quand même assez souvent pour ça, là. Donc, je ne le faisais pas toujours tout seul. Et puis, ça, c'était mon premier travail. Ensuite, dès l'âge de 15 ans, mon père m'a amené à la shop, dans l'usine, les samedis. Puis, on travaillait de 6h30 à 12h30 à peu près, les samedis matins. Puis là, mon premier travail, c'était d'enlever la poussière, passer le balai, laver les machines, puis tout dépoussiérer pour que ça soit propre pour le restant de la semaine. Et puis, un peu plus tard, bien, lorsque j'ai eu 16-17 ans, j'ai commencé à travailler l'été aussi à l'usine avec mon père. Et vu que c'est une usine de machinistes, mais là, OK, on monte un setup, puis comment faire les choses, puis là, OK, il faut nettoyer telle affaire, tel outil, il faut rapetisser tel morceau de métal. Puis j'ai parlé d'aliénation... tantôt. Il y a certaines tâches que je faisais qui me faisaient rendre un peu fou, honnêtement, là. Quand tu passes une semaine et demie à avoir à peu près 2000 morceaux de métal que tu prends, tu mets dans une machine, puis là, tu souffles du sable dessus pour tout le nettoyer, pour enlever la rouille dessus, puis qu'il soit tout propre. Puis ensuite, tu fais un autre, puis fais ça pendant, tu sais. Ensuite, tu t'inventes toutes sortes d'autres choses. Puis là, tu te mets à chanter des chansons chrétiennes, à prier à Dieu, puis tu t'occupes autrement. Mais ça, c'était dur, honnêtement. J'ai trouvé ça dur. Puis ensuite, lorsque je suis arrivé, dans le fond, à l'école biblique, mais là, j'avais dit, je suis capable de travailler dans une usine. Ah, c'est un gars, Luigi, un gars qui est capable de travailler avec ses mains. Ils se sont trompés. Je ne suis pas très manuel, honnêtement. Fait qu'ils m'ont mis à l'entretien pendant que j'étais à l'école biblique pendant un an. Fait qu'une de mes premières tâches, c'est embarque sur le tracteur. Je suis un gars de la ville, hein. Puis passe la tondeuse sur le gazon. Puis je suis dans une école biblique en anglais. Puis je ne comprenais pas beaucoup l'anglais. J'étais là pour l'apprendre, entre autres. Puis ça n'a pas pris de temps. Ça a pris peut-être 45 minutes. Je suis revenu dans l'entrepôt avec le tracteur. Puis là, j'ai essayé d'expliquer ce qui est arrivé. Il dit « tree », qui est un arbre, « boom », comme ça. Alors, je suis rentré dans un arbre, j'ai fait tomber l'arbre à terre, puis j'étais vraiment pas bon pour faire ça. Fait que là, il dit « OK, on ne faut pas lui donner des jobs trop de détails ». Fait qu'ils m'ont fait pelleter du sel sur la glace durant le restant de l'hiver, puis des affaires de même un peu plus simples. Donc, ça, c'est une expérience de travail. Je suis revenu de l'école biblique, j'étais allé à l'université, et j'ai fait toutes sortes de travaux bénévoles, je n'en parlerai pas, mais pendant l'université, là, la première année, je suis retourné un peu à l'usine. Puis la deuxième année, Dieu m'a permis de me trouver un travail avec un de mes amis, Michel Famille. J'ai été un des pasteurs ici. Et pendant que j'étais à l'Université du Québec à Montréal, je travaillais à l'Université de Montréal. Donc, c'est rare que ça arrive, ça. Et je faisais de la formation, là, et tout ça. Donc, j'ai commencé à faire de la formation informatique, formation sur comment utiliser l'ordinateur. C'était dans fin des années 90, début 2000. Et puis, ça, c'était plus lié au service, aux gens, tout ça. Fait que même la troisième année, je faisais du service à clientèle, booking de formation, tout ça. Beaucoup aimé ça. J'ai terminé mon bac en comptabilité. Et puis, là, je suis retourné à shop à mon père. Yeah, comptabilité, hein? C'est ça. Il y en a qui sont plus manuels, même s'ils sont comptables. je suis retourné à la shop à mon père, puis là, j'ai appris à mettre en pratique tout ce que j'avais appris à l'école. À l'école, il y avait toutes sortes d'exemples, honnêtement. Je ne vais pas vous décourager, mais peut-être 95 % de ce que j'ai appris n'était pas très utile dans le pratico-pratique de tous les jours. Mais ce que ça m'a aidé à faire, c'est développer tout mon esprit analytique. Et lorsque je suis arrivé pour monter d'autres rapports, tout ça, là, je savais comment faire, parce que j'avais toutes les références. Et puis, il y avait une excellente comptable qui était une mentor, Chantal, qui m'a aidé à comprendre puis faire la comptabilité, puis passer de la théorie à la pratique, vraiment le faire en pratique puis comprendre comment ça fonctionne. Fait que, après 3 ans, j'avais fait le tour, j'avais mis les choses en place, donc j'avais aidé à des systèmes comptables de production, de gestion, de prix de revient, des affaires de même. Donc, et puis là, j'ai dit, bien, et où l'avancement dans cette entreprise pour moi, là, tu sais, fait que, yeah, je veux aller plus loin. Puis là, le patron, il dit, tu n'avanceras pas ici, trouve-toi un autre job. Oh, ça fait mal! Tu sais, puis honnêtement, bien, Dieu m'a permis de sortir un peu de la zone de confort, puis d'arriver à chercher un peu partout. Puis j'ai réussi à trouver un travail comme administrateur à Mission Bon Accueil. Donc, j'ai travaillé là-bas pendant 10 ans de temps. Et puis, Dieu m'a permis, durant le début, parce que je faisais la comptabilité, j'ai été formé par un gars, parce que la comptabilité de usine versus la comptabilité d'organisme de bienfaisance, ce n'est pas pareil du tout. J'aime mieux l'organisme de bienfaisance, il n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas d'impôt là-dedans. Fait que c'est une des choses que je détestais, l'impôt. Et puis, quelqu'un m'a formé dans la première année, j'ai avancé là. Dieu m'a permis là, que je puisse faire une maîtrise aussi, en même temps que pendant 6 ans de temps que je travaillais le soir, tout ça. Et j'ai avancé, puis j'ai réussi à être directeur des finances là-bas. Et puis... je disais, OK, c'est intéressant. Puis après 10 ans, je disais, OK, je pense que j'ai fait le tour. J'ai vu que mon patron avait été mis à pied. J'ai vu qu'il était en train de faire des changements. Puis là, je dis, je pense pas moi qu'il regarde pour avoir comme le vice-président des finances. Je suis allé valider, puis on dit, non, Luigi, je pense pas que ça t'es le candidat pour ça. OK. Fait que t'as comme, t'es trop dans l'entreprise. OK, c'est bon. Fait que je dis, bien, qu'est-ce que je vais faire? Fait que j'ai commencé à appliquer un peu partout. J'ai dit, Dieu, ouvre les portes. Puis, un de mes amis, Michel Famille, il a dit à Yannick Étier, j'ai un de mes amis là, qui commence à appliquer. Peut-être que tu devrais aller le voir, vu que tu cherches un pasteur exécutif. Fait que, moi, je ne cherchais pas à venir travailler dans une église, honnêtement. Puis, initialement, là, dans mon plan de carrière, je ne cherchais pas non plus d'être dans un organisme de bienfaisance. Puis, Dieu m'a surpris comme ça au travers de toutes les années. Et lorsque Yannick m'a parlé de pasteur exécutif, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Je ne connaissais même pas qu'est-ce que ça mangeait en hiver, ce poste-là. Là. Dans le fond, c'est un pasteur qui fait de l'administration. Fait que je dis, OK, mais je vais essayer, mais moi, je ne suis pas pasteur. Fait que si vous voulez vous pouvez me former. » Puis ils ont été patients, ils m'ont formé pendant 3 ans de temps pour que je sois qualifié comme pasteur. Et j'ai fait le pasteur exécutif pendant 10 d'années. Et la COVID est arrivée. Ça a été difficile au niveau de toutes les imprévus qui sont arrivés. Puis ça m'a créé de l'anxiété incroyable. Et puis j'ai dû ralentir, j'ai dû me re-questionner. J'ai dit, je pense que tous les stress reliés à l'administration, finalement, ce n'est pas fait pour moi. OK, mais qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Puis en même temps, mon garçon arrivé à 12 ans, arrivé à la jeunesse. J'avais déjà été 15 ans responsable jeunesse à l'autre église avant Montréal. Je vais essayer juste de connecter un peu avec les adolescents. Je suis rentré dans la jeunesse. Dans la COVID, les enfants, il fallait tout faire en web. J'ai commencé à connecter les enfants, faire le ministère des enfants. Et puis, j'ai commencé à retrouver une joie dans le travail que Dieu me permettait de faire à tous les jours. Puis, depuis 2 ans et demi, je suis missionnaire, pasteur des familles, à 2 jours semaine. Puis je fais 2 autres choses à Sorel, puis avec la Rive-Sud, les 2 autres jours semaine. Et ce n'est pas un plan de carrière qui est très « wow, c'est le fun, ça va bien ». Parce que honnêtement, depuis que je suis parti de Mission Bon Accueil, j'ai perdu 25% de salaire. Puis depuis que je suis devenu pasteur des familles, ce n'est pas un pasteur exécutif, mais là, je suis devenu missionnaire. Fait que un missionnaire, ça fait encore moins d'argent. Fait que, mais Dieu m'a donné une épouse qui, elle, peut pourvoir aux besoins de la famille. Et puis, au travers de tout ça, je ne fais pas ça pour, pour l'argent. Et j'ai trouvé une motivation de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis Dieu me donne un privilège de travailler dans ce que j'aime. Et ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. On l'a vu, là. Il y a toutes sortes d'exemples où on voit que le travail, ce n'est pas évident. Mais en même temps, Dieu pourvoit aussi aux besoins. Fait que ça, c'est un peu mon témoignage personnel. Fait que, il reste à peu près 5 minutes pour terminer le reste des notes. Mais je trouvais pertinent de vous expliquer un peu ce que Dieu m'a fait cheminer. Et chacun, on a un cheminement unique. Donc, j'espère que personne ne va faire exactement comme moi, parce que ça serait une erreur. Dieu a un chemin particulier pour chacun d'entre vous, peu importe l'âge où vous êtes rendu. Et il y a un travail que je veux que vous fassiez. Donc, la Bible nous donne 3 bons conseils pour aider à faire un bon choix de carrière. On peut, dans le fond, vous le voyez ici, là, ce que nous pouvons bien faire en fonction de nos dons et capacités. Donc, si on a des dons, des capacités particulières, comme moi, j'étais bon en mathématiques, donc mon père, il a dit, moi, je suis venu ici là, pour amener de l'argent à ma famille, prendre soin de ma famille, puis je ne veux pas que tu en manques. Fait que tu es bon en maths, va comptable ou ingénieur. OK, papa. Donc, je suis allé comptable. Et puis, honnêtement, Dieu a utilisé pendant 20 ans, 25 ans de ma vie, toute cette partie-là d'être bon dans les chiffres. Mais quelque chose que j'ai réalisé plus tard, c'est que Dieu me permet d'être bon avec les gens aussi. Il y avait des petits secrets par-ci, par-là qui ressortaient, mais aujourd'hui, avec la COVID, justement, j'ai pu découvrir ces dons-là avec les enfants, avec les ados. 2e conseil, ce qui peut être utile pour les autres. Donc, quand on choisit quelque chose, pas nécessairement pour soi-même, pas pour, mais comment je peux servir les autres autour de nous. Et 3e, ce qui contribue au travail de mon secteur en soi. Donc, pas nécessairement pour mon poste, pour l'avancement, mais si je suis en train de faire quelque chose, cette chose-là, je peux-tu tellement bien le faire que les autres qui vont le faire à la suite, ils vont dire « Ah, regarde, c'est comme ça qu'il le faisait. » Puis là, je peux encore mieux faire basé sur ce que le précédent avait fait. Je n'irai pas plus loin là-dedans, mais c'est juste de mettre un sens dans être au service de son, pas de soi-même, mais des autres et de Dieu aussi, même du travail en tant que tel, pas nécessairement de l'entreprise, mais du poste dans lequel Dieu t'a donné un don pour pouvoir travailler. Dernier point, donc je vais sauter une citation. Une poignée pleine de repos. Une main pleine de repos. Donc, c'est une citation de Ecclésiaste 4:6 qui dit « Mieux vaut une poignée pleine de repos que 2 poignées pleines de travail et 1 d'activité qui revient à poursuivre le vent. » Donc, si on fait juste du travail, il n'y a pas d'équilibre. Si on fait juste des activités du plaisir, il n'y a pas d'équilibre. Travail, repos, c'est ça l'équilibre que Dieu demande. C'est un peu ça l'illustration là, qui est donnée par l'Ecclésiaste. Et en conclusion, le Nouveau Testament nous montre vraiment la source suprême du repos auquel on aspire, Jésus lui-même. Donc, Jésus peut donner à notre âme le véritable repos, car c'est lui qui a souffert à la croix pour nous. C'est lui qui a souffert la brisure que le péché a causé pour le travail et tout le mal que le travail cause. Et il a eu la victoire là-dessus, il est ressuscité. Et un verset par lequel je veux terminer, c'est dans Matthieu 11, 28 à 30. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, vous tous qui êtes découragés, qui vous pensez que votre travail n'a pas de sens, qui vous pensez que vos études sont tellement difficiles et longues, qui pensez que pourquoi je n'ai pas de travail, qui est arrivé, que vous avez perdu, ou que vous arrivez à la retraite, puis vous dites, qu'est-ce que je fais? Et Dieu dit, je vais vous donner du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, par ma parole, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Pour qui on travaille? On travaille pour Christ. Et même si notre travail est dur sur cette terre, gardons espoir que pour l'éternité, notre travail va avoir un but. Prions. Merci, Éternel, pour ce bon temps qu'on a eu ensemble en Église pour pouvoir étudier comment l'Ecclésiaste, le philosophe, le professeur dans l'Ancien Testament nous dit que le travail, si c'est juste basé sur des choses matérielles, sur des choses qui sont reliées à cette terre, ça n'a aucun sens, c'est normal. Merci Jésus parce que toi tu as fait le seul et bon travail qui a du sens, tu es notre modèle, celui qui porte un fruit éternel, celui qui nous sauve et qui nous réconcilie et qui va nous permettre d'être avec toi pour l'éternité. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ton Esprit Saint et qu'au travers des difficultés qu'on peut vivre, on peut te demander de l'aide, on peut prier en Église. Et on peut rechercher, Seigneur, à te servir, servir les autres et servir, Seigneur, la profession, la tâche que tu nous donnes pour pouvoir juste te glorifier au travers de tout ça, malgré nos patrons, nos professeurs qui peuvent être très difficiles, nos tâches qui peuvent être démentes, qui peuvent nous rendre fous. Et Seigneur, on veut s'accrocher à toi, toi Jésus qui es la parole, et on veut trouver notre joie en toi, Seigneur, au travers les épreuves qu'on peut vivre sur cette terre. Merci, Seigneur, pour cette bonne ressource-là du livre et surtout pour ce bon temps-là qu'on a pu avoir ensemble. Amen. Merci, merci. Donc, s'il y a des questions, venez me voir parce que j'ai pris tout mon temps.